Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 19 décembre 2024. Les États-Unis proches de la paralysie budgétaire après un veto de Donald Trump et Elon Musk. En France, les 51 accusés du procès pour viol de l'affaire Pelicot ont tous été condamnés. Rwanda, les partis civils dénoncent l'inaction de l'armée française lors des massacres de Tutsi à Bissessero en 1994 et annoncent un pourvoi en cassation pour relancer l'affaire.
Nous avons constaté que la cour d'appel n'avait pas appliqué la loi comme nous l'entendons et comme elle doit être entendue. D'une part, les règles du procès équitable ne nous paraissent pas avoir été respectées.
Maître Éric Plouvier, l'un des avocats de l'association Survie, à suivre dans la partie magazine. Au Burkina Faso, 4 Français détenus accusés d'espionnage ont été libérés. Au Nigeria, plusieurs enfants ont été tués dans une bousculade lors d'une fête foraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. L'actualité américaine, le tueur présumé d'un patron de l'assurance santé est désormais à la disposition de la justice de New York. Luigi Mangione, soupçonné d'avoir assassiné début décembre le directeur général d'United Healthcare, Brian Thompson, pour se venger, a été transféré ce jeudi dans la grande métropole américaine où il sera jugé pour meurtre à dimension terroriste, a ordonné aujourd'hui la justice. Mardi déjà, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a annoncé que Luigi Mangione a tué pour provoquer la terreur. Le Congrès américain est forcé ce jeudi de repartir à zéro pour éviter une paralysie de l'État avant vendredi soir après le rejet d'un accord budgétaire par Donald Trump et Elon Musk. Rosine Monezero.
Dans une longue série de publications mercredi sur son réseau social X, Elon Musk avait dans un premier temps exprimé son opposition à cet accord budgétaire. Négocié entre élus républicains et démocrates au Congrès, il aurait permis de financer l'État fédéral jusque mi-mars et d'éviter le fameux shutdown. Dans la soirée, l'homme le plus riche du monde, nommé par Donald Trump à la tête d'une commission devant couper dans les dépenses publiques, a été rejoint en ce sens par le futur président américain qui a dit se réjouir du fait que ce projet de loi soit en train de mourir rapidement. Leurs prises de position respectives font que cet accord ne sera à coup sûr jamais adopté alors que le temps passe avant la date limite de vendredi soir pour éviter un shutdown. Une paralysie des services publics fédéraux entraînerait notamment le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires et le gel de plusieurs aides sociales.
Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont tenté ce jeudi d'affiner leur stratégie sur l'Ukraine comme sur la Syrie lors de leur dernier sommet avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Lors de cette rencontre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Européens à l'unité entre eux, mais aussi avec les États-Unis de Donald Trump, soulignant que la coopération transatlantique était indispensable pour aller vers une paix durable en Ukraine. Sur la Syrie, où le président Bachar Al-Assad a été chassé du pouvoir le 8 décembre par une coalition d'islamistes, les Européens, tout comme les Américains, veulent éviter toute résurgence en Syrie du groupe djihadiste État islamique qui n'a jamais été totalement éradiqué. Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans le centre de Damas pour la démocratie et les droits des femmes, plus de 10 jours après la chute de la capitale aux mains d'une coalition conduite par des islamistes radicaux. Ayat Tahrir al-Sham affirme avoir rompu avec le djihadisme, mais le groupe reste classé mouvement terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Des peines de prison prononcées contre les 51 accusés dans le procès des viols en série en France. Ils ont tous été reconnus coupables des faits de viol, tentative de viol ou agression sexuelle sur Gisèle Pelicot. Alexandrine Ollignon.
Les peines vont de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à 20 ans de réclusion criminelle. Les condamnés sont âgés de 27 à 74 ans et sont chômeurs, retraités, artisans, journalistes ou chefs de chantier. Dominique Pelicot, retraité dans le Vaucluse, a drogué sa femme aux anxiolytiques pendant une décennie entière afin de la violer pendant son sommeil et la livrer à des hommes recrutés sur Internet pour la violer à leur tour. 200 viols sur 10 ans documentés par des milliers de vidéos. Ouvert le 2 septembre, le procès des viols de Mazan s'est refermé près de 3 mois et demi après. Il a suscité une attention médiatique sans précédent, y compris à l'étranger, 180 médias se sont accrédités pour suivre l'affaire.
Emmanuel Macron, qui s'est rendu ce jeudi à Mayotte, 5 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido, a annoncé décréter un jour de deuil national le 23 décembre. L'Élysée a fait savoir à la presse que le chef de l'État français passerait la nuit dans l'archipel et visiterait vendredi matin d'autres quartiers touchés par le cyclone. Emmanuel Macron a confirmé qu'un hôpital de campagne serait opérationnel demain vendredi et a annoncé l'envoi de renforts de gendarmerie dont les effectifs passeront à 1200 hommes contre 800 actuellement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le cyclone Chido a provoqué la mort d'au moins 73 personnes au Mozambique, selon un bilan actualisé et diffusé ce jeudi par l'Institut national de gestion des risques et désastres de ce pays d'Afrique australe. Le décompte au Mozambique des victimes du cyclone qui a frappé dimanche le continent africain après avoir dévasté l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien a grimpé d'une trentaine de morts en une journée. En plus de provoquer près de 550 blessés, la dépression a complètement détruit presque 40 000 habitations de ce pays parmi les plus pauvres de la planète d'après ce nouveau bilan. 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso ont été libérés selon la Direction générale du renseignement extérieur français, confirmant des informations de la presse marocaine. Les précisions de John Lindon.
Les 4 hommes avaient été interpellés dans la capitale burkinabé le 1er décembre 2023 et ont été présentés par les autorités comme des agents de la DGSE, la Direction générale du renseignement extérieur français. Une source diplomatique française avait alors indiqué qu'il s'agissait de 4 fonctionnaires détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, mais elle avait rejeté les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Depuis, les autorités françaises étaient restées discrètes sur le sort de ces 4 Français. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État. Ouagadougou a dénoncé en mars 2023 un accord militaire de 1961 avec la France après avoir obtenu le retrait des forces françaises. Le Burkina a depuis formé avec le Mali et le Niger qui ont également chassé l'armée française de leur sol, l'Alliance des États du Sahel.
Au Nigeria, plusieurs enfants sont morts hier lors d'une bousculade pendant une fête organisée au lycée islamique de Bassorun à Ibadan dans l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Yakuba Ouedraogo.
Malheureusement, une bousculade a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Ce sont les mots de Seyi Makinde, gouverneur de l'État d'Oyo, dans un communiqué publié sur le réseau social X. Les secours ont été dépêchés au lycée islamique de Bassorun où s'est produit le drame, indique Seyi Makinde. Les médias locaux ont identifié les organisateurs de l'événement comme étant la Women in Need of Guidance and Support Foundation. Cette association avait organisé un événement similaire pour les enfants l'année dernière. Les autorités disent avoir arrêté les organisateurs de l'événement. Si les gens sont sains d'esprit et conscients de ce qui se passe autour d'eux, vous ne pouvez pas entasser 10 000 personnes, des enfants de surcroît, dans un endroit et vous attendre à ce qu'elles se comportent normalement, affirme le gouverneur Makinde, ajoutant que les autorités ne disculperont personne qui soit lié à l'organisation de l'événement. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances et les causes de la bousculade.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit annoncer ce jeudi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, un financement supplémentaire pour l'aide humanitaire et le soutien à la société civile au Soudan. Les États-Unis souhaitent attirer l'attention du monde entier sur la crise et soutenir une transition vers la démocratie au Soudan. Le conflit a provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes et créé des défis importants pour l'acheminement de l'aide. L'Égypte a accueilli un sommet de l'Organisation de coopération économique D8, rassemblant 8 pays à majorité musulmane, dont l'Iran, la Turquie, le Nigeria et l'Indonésie. L'événement vise à renforcer les liens économiques entre ces nations et à aborder des crises régionales, notamment le conflit à Gaza et les troubles en Syrie. Une session spéciale sur ces enjeux a vu la participation de dirigeants comme Mahmoud Abbas et Recep Tayyip Erdogan. Fondée en 1997, l'organisation D8 cherche à promouvoir le développement économique parmi ses membres, couvrant des régions d'Asie du Sud-Est à l'Afrique. Le sommet symbolise un rapprochement diplomatique entre les nations musulmanes face à des défis communs. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manirakiza.
L'exploitation des ressources extractives de la Côte d'Ivoire est depuis quelques années en plein boom. Après avoir établi des conditions attrayantes pour les investisseurs étrangers, le pays veut désormais encourager de meilleures retombées économiques pour les entreprises locales. Une mesure est particulièrement attendue, la révision du code minier prévue dans les prochaines semaines. Le nouveau code devrait accorder plus de place aux entreprises et aux communautés locales, selon le directeur général des mines. Le président élu Donald Trump et son futur vice-président J.D. Vance se sont exprimés mercredi dans un communiqué conjoint contre un accord budgétaire négocié au Congrès américain entre des élus républicains et démocrates, laissant ainsi planer encore davantage le spectre d'une paralysie de l'État fédéral à la date limite de vendredi soir minuit. Ils affirment que toute concession aux démocrates représentait une trahison du pays. Le texte de 1500 pages permettait de financer l'État fédéral jusque mi-mars et d'éviter ainsi le shutdown avant l'heure fatidique de vendredi soir minuit. La réserve fédérale américaine Fed a annoncé mercredi avoir baissé pour la troisième fois consécutive ses principaux taux de 25 points de base, les ramenant dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50% en ligne avec les attentes des marchés. Cette décision n'a cependant pas fait l'unanimité parmi les membres du comité de politique monétaire de l'institution.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Ibrahim Diarra signe officiellement au FC Barcelone.
Oui, le prodige malien est désormais un joueur du FC Barcelone. Le club Blaugrana a confirmé dans un communiqué le recrutement d'Ibrahim Diarra, produit du centre de formation malien Académie Africa Foot. Le Barça parle d'un contrat pour le reste de la saison et trois autres jusqu'au 30 juin 2028. Pour découvrir davantage ce jeune prodige malien, nous avons joint à Bamako le vice-président de son centre de formation, l'Académie Africa Foot, Dossé Diallo.
Ibrahim Diarra Kaka, il est chez nous à l'Académie Africa Foot depuis à l'âge de 12 ans. Déjà à 14 ans, il jouait avec l'équipe première. Comme vous le savez, nous avons signé un partenariat avec le FC Barcelone. Les dirigeants barcelonais ont vu Diarra jouer, mais il n'avait pas 18 ans. Donc là, il a eu 18 ans le 12 décembre et il a signé avec le FC Barcelone.
Dossé Diallo, vice-président du centre de formation de l'Académie Africa Foot.
L'Ivoirien Wilfried Senghor s'excuse après avoir involontairement blessé le gardien du PSG.
Le défenseur de l'AS Monaco, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, s'est publiquement excusé envers Gianluigi Donnarumma après avoir gravement blessé le gardien du Paris Saint-Germain lors du match avancé de la 16e journée de Ligue 1, hier au stade Louis II. Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma. Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage, a écrit Wilfried Senghor sur Instagram. Selon des images diffusées par le Paris Saint-Germain, les deux joueurs se sont salués dans les couloirs du stade Louis II après la rencontre. Tout va bien, tranquille, a glissé le gardien à l'Ivoirien à la 17e minute du match remporté par l'équipe parisienne 4-2. Wilfried Senghor n'a pas maîtrisé son geste et a écrasé ses crampons sur la joue de Donnarumma, qui, une plaie ouverte à la joue, a dû céder sa place à Matvei Safonov.
Parlons à présent de l'affaire de la séquestration de Paul Pogba. Son frère Mathias et cinq de ses amis d'enfance ont été condamnés à des peines.
3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour tentative d'extorsion et participation à une association de malfaiteurs pour Mathias Pogba. Le grand frère de Paul Pogba n'ira pas derrière les barreaux. Il pourra effectuer ses 12 mois de prison ferme à domicile sous bracelet électronique. Le tribunal l'a aussi condamné à une amende de 20 000 euros. Rouchdan K, considéré comme le cerveau de l'affaire et qui comparaissait détenu, a été condamné à 8 ans de prison.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les parties civiles ont annoncé un pourvoi en cassation pour relancer l'affaire des massacres de Tutsi à Bisesero en 1994. Elles accusent l'armée française et l'opération turquoise de complicité de génocide. Parmi elles figurent des associations comme Survie, Bouka, FDH, LDH, l'ICRA et six rescapés de Bisesero. Pour en parler, Eric Manirakiza, agent à Paris, maître Eric Plouville, l'un des avocats de l'association Survie.
L'association Survie et d'autres parties civiles ont décidé de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 11 décembre 2024, dit arrêt Bisesero, dans lequel nous avons constaté que la Cour d'appel n'avait pas appliqué la loi comme nous l'entendons et comme elle doit être entendue. D'une part, les règles du procès équitable ne nous paraissent pas avoir été respectées dans la mesure où la Cour d'appel refuse d'effectuer des investigations supplémentaires sur la chaîne de commandement qui a existé entre le théâtre des opérations à Bisesero et la hiérarchie politique et militaire française, c'est-à-dire jusqu'à Paris et jusqu'à l'Élysée, comme l'a démontré la commission d'historiens. Et d'autre part, nous estimons que la loi a été mal appliquée s'agissant de la qualification juridique de complicité de génocide par abstention. Étant rappelé que dans l'organisation judiciaire française et dans la procédure pénale française, il ne s'agit pas de refaire un troisième procès ou un troisième niveau, il s'agit de demander à la Cour de cassation si la Cour d'appel a ou non bien appliqué nos droits et les conventions.
Pensez-vous avoir gain de cause pour casser ce jugement ?
Nous avons au contraire gagné une première fois puisque les juges avaient fait eux-mêmes une mauvaise application de la loi. C'est pour ça que la première décision des juges avait été purement et simplement annulée. Donc c'est la première fois que la Cour d'appel était dans l'obligation de statuer sur le non-lieu ordonné par les juges. Et c'est cette décision nouvelle que nous contestons. Les chances de gagner, nous verrons bien ce que la chambre criminelle décidera, mais disons que les arguments que nous présentons sont des arguments qui me paraissent tout à fait sérieux et on a le sentiment dans cette affaire que la France et les autorités judiciaires françaises n'ont pas très envie de faire des investigations poussées sur l'action des militaires sur un théâtre d'opérations étrangers. Il faut tout de même rappeler qu'il ne s'agit pas de n'importe quel délit ou crime, il s'agit du crime de génocide et d'une abstention volontaire des militaires français d'intervenir du 27 au 30 juin 1994 sur le théâtre des opérations de Bisesero, entraînant par là des massacres pendant 3 jours, alors que la France avait l'obligation, selon une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'intervenir, y compris aux besoins de la force, qu'elle en avait les moyens militaires et qu'elle savait très bien qu'à quelques centaines de mètres des patrouilles qui étaient sur place, des personnes étaient en train d'être massacrées. Donc c'est cette abstention criminelle que nous estimons devoir être jugée en France pour ceux qui ont refusé d'exécuter ce devoir d'assistance auprès de personnes en péril et de toute la chaîne de commandement militaire et politique qui a dirigé cette opération à Bisesero.
L'avocat pénaliste Éric Plouvier de l'association Survie, interview complète à retrouver sur voafrique.com. Les Camerounais se rendent aux urnes l'année prochaine pour élire un président pour un nouveau mandat de 7 ans. Les précédentes élections dans ce pays d'Afrique centrale ont été entachées par la désinformation qui a alimenté le chaos sur les plateformes de médias sociaux. Aujourd'hui, les journalistes et les professionnels des médias affirment qu'ils prennent des mesures préventives pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Les détails dans ce reportage de Njoseka Danatou, le récit est de Rosine Monizero.
Ambo Vanessa Lizzi, créatrice de contenu à Boa, naviguait sur les médias sociaux lorsqu'elle a appris que le président du Cameroun, Paul Biya, est décédé. Sans aucun moyen de vérification, elle a attendu une communication officielle jusqu'à ce que le gouvernement publie une déclaration démystifiant les rumeurs sur la mort du président, les qualifiant de pure fantaisie.
Dans la mesure où nous voulons le changement, je ne souhaite la mort de personne.
Les désinformations comme celles qui concernent le président seront probablement fréquentes en particulier lorsque les Camerounais se rendront aux urnes l'année prochaine.
Je me prépare d'ores et déjà à faire face à toutes les informations électorales qui pourraient survenir.
Jude Mbaku étant notre journaliste et rédacteur en chef de DMR TV Boua, un des principaux vérificateurs de faits dans une région précédemment touchée par la désinformation. Jude Mbaku dit qu'il a vu des groupes utiliser les médias sociaux pour tromper le public, ce qui a eu des conséquences importantes.
Lorsque les Lions se sont rendus en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations, la rumeur a couru que Ndiaye Clinton avait démissionné de l'équipe. Et ce sont les combattants séparatistes qui ont le plus propagé cette rumeur. Cela n'a pas été fait par erreur. C'était bien ficelé et bien préparé pour désinformer.
Madame Karloff explique que les journalistes camerounais sont confrontés à de nombreux défis pour rendre compte avec précision de la situation, notamment le manque de moyens financiers, les risques en matière de sécurité et l'accès restreint à l'information.
Je suis allé à la délégation régionale des transports pour demander les statistiques des véhicules immatriculés dans le sud-ouest, en particulier à Bouéa, et on m'a dit d'aller me mettre sur la route pour commencer à compter les voitures moi-même.
Malgré ces défis, des experts comme le professeur Kingsley Ngangé, boursier Fulbright et formateur en journalisme soulignent l'importance de l'éducation aux médias et de l'éthique journalistique.
Il faut continuer à faire pression pour obtenir des lois qui garantissent l'accès à l'information. Au Cameroun, la Constitution le prévoit, mais nous n'avons pas encore de loi sur l'accès à l'information.
L'augmentation de l'utilisation des médias sociaux a conduit à une augmentation de la désinformation au Cameroun, faisant de la vérification des faits une tâche ardue pour de nombreux journalistes. Pourtant, les journalistes affirment qu'ils restent déterminés à lutter contre les effets néfastes de la diffusion de fausses informations.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La fièvre des fêtes de fin d'année bat son plein au Bénin. Comme d'habitude, l'approche de la fête de Noël est le moment favorable à la vente des jouets de tout genre, étalage toujours garni, clients encore rares, commerçants attristés, c'est le constat fait au niveau de plusieurs stands de vente d'articles de fête ou de jouets sur les grandes artères de la ville de Cotonou. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Au Bénin, le refrain reste le même à l'approche des fêtes de fin d'année. Les enfants attendent de leurs parents des cadeaux comme l'exige la tradition depuis des lustres. Mais entre mévente, rareté des clients, les commerçants ne savent où donner de la tête. Âgé de la trentaine, Alexis pensait pouvoir faire des chiffres cette année.
Comparativement aux années précédentes, cette année, peu de gens sortent pour venir voir les articles que nous avons. Et même de ceux qui viennent, peu arrivent à prendre quelques jours. Donc le marché n'est pas tel qu'on l'aurait souhaité. Mais on essaie de voir à notre niveau comment jauger cela, comment arranger cela pour que le client soit satisfait.
Nous sommes à une semaine de la fête de Noël. En attendant les clients, certains égrènent leur chapelet appelant tous les saints à la rescousse.
On ne sent encore rien, les clients ne sortent pas encore. On espère les voir avant la veille Noël.
Il y a quelques-uns qui viennent demander les prix. On va revenir. Par contre, d'autres viennent. Si c'est un petit truc qu'ils achètent, c'est ça. C'est ce qu'on vit actuellement. Il y a tout. Même il y a des trucs de 1000 francs, de 500 pour les enfants. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'acheter grand-chose. Même avec 500 francs, tu vas trouver un bon jouet pour ton enfant.
Une panoplie de jouets sur les étalages et les carrefours spécialement aménagés pour la vente des jouets. Des poupées en passant par les vélos, les voiturettes, les instruments de musique, tout un choix varié d'articles. Quelques parents en quête de jouets idéal rencontrés sont pour la plupart en mode visiteurs sur les stands.
Tout coûte cher, donc même si avec nos maigres moyens, on va au marché, tout s'évapore dans la nature facilement. On ne sait même pas combien de fois, qu'est-ce qu'on a acheté pour que tel montant envoyé au marché puisse disparaître aussi.
Allez vendre d'abord, pour trouver l'argent d'abord, avant qu'il veuille venir acheter ça.
Je suis venu acheter un jouet pour mon enfant. Les choses sont chères, mais bon, c'est pas mal quand même.
La tristesse et le désespoir se lisent dans les yeux des vendeuses de jouets en boutique, tandis que celles ambulantes sont en peine sous le coup de la fatigue. Ceux qui vendent les produits vivriers et autres n'arrivent pas à s'expliquer le phénomène de la mévente qui s'est accentué cette année.
L'huile d'arachide
Chine ne peut pas coûter ce montant où on est au-delà de 35 000. Monsieur le Président Patrice Talon, nous disons toujours que le social, nous ne vous sentons pas assez. Il ne serait pas bien que sous le mandat du hautement social, que le maïs, que l'huile et autres, ces produits de première nécessité, continuent de coûter ces montants-là, qui vraiment malmène le quotidien du citoyen consommateur.
Mais pour le ministre de l'Agriculture, en finir avec la cherté des produits de grande consommation est une question qui interpelle la conscience collective. Gaston Dossoui est le ministre de l'Agriculture.
La conjoncture que nous traversons est soutenable si nous avons un peu de volonté. Plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, il nous faut simplement produire deux fois, trois fois plus que nous le faisons actuellement.
Cherté de la vie ou pas, les enfants attendent de la magie le 25 décembre et les parents doivent redoubler d'ardeur pour leur offrir une fête à la taille de leurs attentes. De Cotonou, Ginette Fleur Adanli pour VOA Afrique.
Siri Kiki, une figure incontournable de la sculpture en Afrique, expose actuellement à Opa-Locka à Miami, une exposition intitulée « Incarnation de la vivacité » dans laquelle l'artiste fait revivre les œuvres africaines qui sont loin du continent dans les musées en Europe. Georges Atineau nous en dit plus.
Avec une énergie débordante du haut de ses 71 ans, Siri Kiki donne vie à ses ancêtres à travers ses masques chargés d'histoire. Du Burkina Faso au Gabon, en passant par le Congo, l'artiste a minutieusement sélectionné des pièces emblématiques pour représenter la diversité du continent africain.
Alors, j'ai choisi ces masques-là, des masques d'Afrique centrale, des masques d'Afrique de l'Ouest, des masques d'Afrique australe. Tous les, j'ai fait en sorte qu'il y ait toutes les parties qui soient intéressées dans cette exposition. Je n'avais que 10 sculptures à faire, hélas. J'ai choisi seulement 10 masques. Il y a un masque par exemple du Burkina, des masques du Gabon, du Congo. C'est tout. J'ai pris dans toute l'Afrique.
Au-delà de l'aspect esthétique, cette exposition révèle une dimension politique. Pour Siri Kiki, ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles du pouvoir et de la spiritualité.
Les masques, les statues sont investies d'un pouvoir. Les ancêtres avaient le mot pour invoquer les pouvoirs occultes, on va dire occultes, si vous voulez. Hein? Les divinités là, sont là, nos divinités sont là. Quand on les implore, il y a la force qui rentre dans l'objet, dans le masque ou dans la statuette.
Ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles de pouvoir et de spiritualité. Il appelle ainsi à la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées en Europe.
Moi, je suis un militant pour ça, pour que les œuvres reviennent. Que les œuvres reviennent, qu'on construise des musées, les mains dedans, c'est pas ça. Moi, je suis un militant pour que les œuvres reviennent, qu'elles repartent à les bases où on les a fabriquées, et si on veut qu'on les resacralise. Parce que quand les masques sont partis dans les mains indignes, alors le pouvoir sort, le pouvoir s'en va. C'est désacralisé. Et moi, je voudrais que les œuvres là viennent, qu'on les resacralise. C'est le patrimoine de toute l'Afrique. On peut les sacraliser. Il y a des anciens qui sont encore là, qui savent comment faire. Hein? À partir d'incantations, de prières, on peut les mettre le pouvoir dedans. Alors moi, je dis que les masques sont partis. Il y a des masques qui sont partis par la force, mais aussi que nos frères ont vendu. Ça, ce n'est pas négligé non plus. Mais de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, c'est des trucs qui ont été volés à l'Afrique. On voudrait les voir, c'est tout.
Malgré les défis au Burkina Faso, Siri Kiki continue de s'investir dans la promotion de la sculpture africaine à travers le symposium de Laogo, un musée à ciel ouvert à quelques kilomètres de Ouagadougou.
Le symposium continue. Avec ça, il y a beaucoup d'autres manifestations qui continuent. On ne va pas arrêter le symposium pour ça. Hein, on a fait une édition de très belle facture cette année, la 14e édition du symposium, qui s'est tenue avec les gens qui sont venus d'ailleurs, les autres pays, et on a fait un très bon travail. Non, rien ne peut nous arrêter à ce niveau-là, en tout cas.
Ouais. Avec incarnation de la vivacité, Siri Kiki sculpte un véritable message d'espoir et de résistance sur la place des œuvres d'art africain dans notre société.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.